Bonjour à tous. Bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Je voudrais vous parler de souveraineté divine. C'est un thème qui m'a attrapé, alors que je ne m'y attendais pas. Un Dieu souverain, si vous voulez, pour donner un titre, dans un monde en crise, ou en plein désarroi, on peut dire également. Ça m'a attrapé parce que les premiers jours du confinement, je crois que ça a commencé le 15 ou le 16 mars, il me semble, dans ces eaux-là, dans la première semaine, j'étais dans mon bureau en train de lire un passage de l'Écriture dans le livre du prophète Ésaïe, et c'était le chapitre 44, la dernière partie du chapitre où il est question de Cyrus, et le chapitre suivant, 45, où il est encore question de lui et de la façon dont souverainement Dieu a permis que ce potentat de l'époque soit un instrument entre ses mains pour amener la libération, vous vous en souvenez, du peuple d'Israël qui avait été déporté pour une grande partie d'entre eux à Babylone, et c'est lui qui a pris le pouvoir à Babylone, chassant le roi Nabonide ou Nebuchadnezzar, si vous voulez. Et ainsi, en lisant ces passages, alors que c'est quelque chose qui, à ce moment-là, ne me préoccupait pas particulièrement, mais en lien avec les circonstances que nous étions en train de traverser, il y avait une belle matinée, le soleil se levait, c'était à l'aube, et un silence impressionnant. Bien sûr, comme nous l'avons tous vécu à ce moment-là, on n'entendait que les petits oiseaux chanter. Il y avait, la nature a fait silence, il semblait qu'on a été tous mis sur pause. Vous avez remarqué? Oui, vous le faites des fois, hein, sur vos instruments divers, vous mettez sur pause. Eh bien, nous avons tous été mis, le monde a été mis sur pause. Et alors que je lisais ce passage, eh bien, il y a un sentiment, un mot d'abord qui s'est imposé, qui résonnait en moi, je ne m'y attendais pas, d'une manière assez inattendue, le mot souveraineté, la souveraineté divine. Et ça a été tellement fort en lien avec le passage que je lisais qu'au bout d'un instant, je me suis retrouvé même dans mon bureau, prosterné face contre terre. Oh, je n'ai pas l'habitude souvent de faire ça, ça s'est imposé à moi. Non pas parce que personne, il n'y avait aucun public, hein, j'étais seul avec moi-même et avec le Seigneur. Et donc, c'était tellement fort, le sentiment d'une majesté divine également, d'une souveraineté divine qui était là exprimée, que je ressentais devant, en lien avec les événements qui étaient en train de se produire dans notre monde. Il me semblait que Dieu me disait « Intéresse-toi un petit peu à ce sujet ». Bien sûr que je connaissais, mais là, ça me parlait comme une fraîche révélation de choses que Dieu voulait me montrer d'une manière très forte. Et vous savez, on connaît beaucoup de choses dans la parole de Dieu, hein ? C'est vrai. Et comme Paul le disait à une certaine église à laquelle il écrivait, je peux venir au milieu de vous en vous parlant par connaissance, mais aussi par révélation, et je choisis de le faire d'une manière ou d'une autre, mais il y a des moments où des choses que nous connaissons et sur lesquelles nous avons besoin de travailler intellectuellement, par notre réflexion, notre méditation, viennent là, tout d'un coup, comme un élément vient, comme une révélation qui vient nous apporter une connaissance qui est au-delà de l'entendement, de la raison, et s'impose à nous comme une fraîche, comment dire, révélation, oui, c'est-à-dire le voile est ôté, la révélation c'est le voile qui est ôté, de telle manière à ce que nous, d'une manière très vive, intense et extraordinaire, nous découvrions des choses que nous n'avions pas capacité à discerner, à voir auparavant, d'une manière aussi évidente, aussi claire et aussi souveraine. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à beaucoup d'entre nous lorsque nous l'avons rencontré, une révélation de sa part est venue dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre être intérieur. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai. On a le temps ? Bien. Ça peut être un peu long, j'espère que non, parce que je sais que certains également nous écoutent, je pense, par YouTube, hein, par Internet, oui. Donc, quand on écoute à l'écran, ça peut être un peu plus long que quand on est en live. C'est pas tout à fait la même chose, mais peut-être pas. J'en sais rien. Vous me le direz après. Bien, alors on va lire le passage, si vous voulez, un des passages que j'étais en train de lire. En fait, c'est pas exactement celui-là que je lisais, que nous allons lire ensemble, mais c'est dans la même veine, c'est dans les mêmes chapitres, et ça remplit le livre du prophète Ésaïe. Dieu est un Dieu souverain. Amen. Rien ne lui échappe. Dieu est au contrôle. J'espère que vous en avez conscience, que vous allez en prendre conscience plus que jamais. Alors on lit au chapitre 46, verset 9. Vous voulez bien ? Allez. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite. Écoutez bien, les mots sont importants. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance même. Ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, si éloignés de la justice, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion pour Israël, ma parure. Amen. Voilà, c'est... Un texte, très beau texte, comme tout le livre d'Ésaïe d'ailleurs. Et ce livre d'Ésaïe est plein d'un souffle prophétique très puissant. On a appelé le livre d'Ésaïe et le prophète Ésaïe le prince des prophètes. Il y a un souffle extraordinaire. Il y a des chapitres que vous connaissez, des versets que vous pourriez me citer par cœur. Un des plus remarquables est le chapitre 53 d'Ésaïe, bien sûr. Mais il y en a d'autres. Il y a auparavant le chapitre 40 concernant Israël. Consolez, consolez mon peuple. Et l'accomplissement prophétique qui s'est opéré alors que le peuple est revenu sur sa terre et que nous sommes appelés, nous. Bien sûr, nous pouvons être les instruments de la consolation aussi de ce peuple parce que nous comprenons le dessein de Dieu qui se réalise pour ce peuple aussi. Et vous connaissez le chapitre 9, le chapitre 7, non ? Car un enfant nous est donné, un fils nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et aussi le signe de la Vierge sera enceinte également. Des passages comme ça que vous connaissez bien, c'est pour ça que je vous les cite. Et... Ce livre d'Ésaïe donc est extraordinaire pour la façon dont il nous parle de la manière dont Dieu traite avec les hommes. Et ce matin-là, d'ailleurs, quand j'ai eu ce sentiment de la souveraineté de Dieu, j'avais l'impression que Dieu était en train de se lever dans le monde, comme il le fera un jour d'ailleurs, et tout œil le verra. Et j'ai compris, parce que j'avais un petit peu réfléchi là-dessus auparavant, et quelque temps auparavant, c'est que nous assistions à des événements qui, quelque part, nous montrent déjà ce que va être la grande tribulation qui viendra. Ce sont déjà des signes de la façon dont un événement qui pourrait... paraître au départ anodin, maîtrisable par les hommes, par leur science, par leur savoir, peut tout d'un coup tout bloquer, tout arrêter et nous empêcher de continuer à fonctionner comme le monde fonctionne et arrêter toute la machine et tout le système, n'est-ce pas ? Il suffit de pas grand-chose, hein ? Et ce qui est en train de se produire là risque de se produire, peut-être pas sous la forme d'un virus, je ne sais pas, d'une manière beaucoup plus importante et intensive dans les temps à venir. Dieu reste maître et souverain des temps, des moments, et au contrôle de toutes choses. Il est assis sur son trône. Mais en même temps que ce sentiment venait, j'ai été profondément rassuré. C'est une profonde adoration qui est montée de mon cœur. Je n'ai pas été submergé de telle manière que j'ai eu peur, pas du tout. Au contraire, sans cela, j'aurais eu peut-être un peu peur. Mais là, j'étais au contraire tellement rassuré dans les bras du Père, quels que soient les événements qui puissent se produire. Parce que moi, je ne suis pas à l'abri plus que vous d'attraper ce virus. Certains pasteurs l'ont eu, certains frères et sœurs l'ont attrapé. Certains sont partis auprès du Seigneur. Hein ? Parce que Dieu est souverain aussi dans toutes ces choses. Lorsque je lis les psaumes, je me rends compte que les auteurs de ces psaumes, alors bien sûr ça a bouleversé ma lecture quand je relis des passages de l'Écriture maintenant, je me rends compte que les auteurs avaient une perception très profonde de la souveraineté divine. Et je me suis aperçu que moi je ne l'avais pas assez. Je connaissais la doctrine, ne croyez pas que j'étais ignorant, que Dieu était souverain. Mais entre le savoir qu'on peut avoir avec ses méninges et la révélation que Dieu peut nous donner de vérité que nous connaissons et qui, la révélation apporte, impacte, provoque le changement dans nos vies. La révélation de Dieu provoque des changements dans notre vie. Et donc, lorsque je lisais les psaumes, et je me rends compte que c'est tellement évident pour eux, cela amène ces hommes, ces femmes à l'adoration, à la soumission, à la confiance, plus qu'à la peur, à l'angoisse, à la terreur, donc plus qu'à la peur, à l'angoisse et à la terreur, même si ces sentiments sont exprimés dans les psaumes et ces émotions, d'accord ? Il y a d'ailleurs plus de versets qui expriment le désarroi du psalmiste dans tous les moments où qu'il a traversé difficiles, où il était hors de maîtrise de tout ce qui arrivait dans sa vie. Eh bien, ces sentiments présents aussi, et qui parfois pouvaient submerger les auteurs des psaumes, leur connaissance personnelle de Dieu et de ses voies les amenaient à en triompher en considérant la souveraineté de Dieu, associée à sa bienveillance, à son amour. C'est là un paradoxe. Hein ? C'est là un paradoxe. Un jour, l'humanité tout entière prendra conscience de cette réalité. Vous vous souvenez de ce que dit Philippiens, chapitre 2 ? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un jour, ça se produira pour le monde, pour tous les hommes. Ce sera trop tard pour certains. Mais ils devront reconnaître cette majesté, cette souveraineté divine. Mon souhait en apportant cette parole, c'est que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur, dans vos pensées, quelles que soient les circonstances que vous pouvez traverser en ce moment. Soyez transformés dans votre être intérieur par la révélation plus que par, je le disais, la connaissance intellectuelle, doctrinale, qui est nécessaire pourtant. Hein ? Je ne suis pas en train d'opposer les deux. On a besoin de l'un. Et à partir de l'un, Dieu apporte des éléments de révélation. Mais on a besoin de connaître objectivement la vérité, de manière à ce que Dieu se serve de certains éléments pour apporter une force spirituelle par le vécu que nous allons en avoir, bien sûr, la révélation et ensuite l'expérience qui va nous permettre de savoir que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit et sa parole est la vérité. Amen. Donc, on parle de souveraineté de Dieu, de manière, soyons fortifiés de manière à ce que notre marche avec lui soit renouvelée dans la confiance, dans la sécurité, la joie de le connaître, ainsi que ses voies, son dessein, son amour. Bien. Alors vous voulez en savoir plus, je suppose. Oui ? On continue ? L'objectif, bien sûr, c'est de nous aider à vivre avec les difficultés, les crises présentes. Parce que nous pouvons être concernés jusque dans notre chair par ces choses-là. Certains peuvent être touchés au niveau, non seulement, on l'a dit, de la santé, mais du travail aussi, bien sûr. Et nous savons que la région toulousaine est impactée aussi par ce qui est en train de se passer. Nous avons à traverser les épreuves du temps présent, mais avec le Dieu souverain, dans la conscience de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il permet. Amen. Il tient toutes choses entre ses mains. Vous le croyez ? Il y avait un vieux spiritual qui le disait. Il tient l'univers entier entre ses mains. Vous vous souvenez de qui le chantait ? Louis Armstrong le chantait, par exemple. Vous vous souvenez de Louis Armstrong, oui, trompettiste de jazz, si je ne me trompe pas, voilà. Et il chantait j'avais ces disques quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, en vinyle, hein, je ne les ai pas gardés, c'est dommage, hein, ça a de la valeur maintenant, j'aurais mieux fait de les garder. Et il chantait ce spiritual qui disait, il tient l'univers entier entre ses mains. He got the whole wide world in his hands. Voilà ce qu'il chantait. Et ceux qui vivaient peut-être l'esclavage, il fut un temps, pouvaient chanter également ce chant. Il tient l'univers entre ses mains et il tient ma vie. Ce chant dit, il tient ma vie entre ses mains. Le croyez-vous ? Alors ça soulève beaucoup de questions. Et on commencera juste aujourd'hui à répondre à certaines d'entre elles. On ne va pas pouvoir répondre en une seule réunion à toutes. Je vais les soulever ces questions. Vous voulez bien ? C'est pas pour vous désarçonner, mais quelque part si. Quand même, on a besoin d'être bousculé. Hein ? Dieu est-il réellement au contrôle du monde et de son histoire ? Est-il réellement au contrôle ? Certaines personnes peuvent avoir un sentiment différent et que Dieu est dépassé par tout cela. Et ils peuvent avoir un sentiment différent que celui qui est monté dans mon cœur ou de celui qui est dans le vôtre à cause de votre connaissance de Dieu, de sa parole et de ses voies. La souveraineté de Dieu fait-elle bon ménage avec la liberté de l'homme ? Bonne question, hein ? Pourquoi prier si Dieu est souverain ? Quelle est son utilité ? Non ? Si Dieu est si souverain que cela ? On ne va pas répondre aujourd'hui à toutes, hein, je vous préviens. Qu'évoque ce mot pour moi ? Quel retentissement a-t-il ? Que contient-il quand je parle de souveraineté ? Chez certains, ils peuvent si peu connaître Dieu qu'ils peuvent avoir immédiatement ou alors le connaître d'une certaine manière qui ne correspond pas exactement à la révélation biblique parce que le système religieux dans lequel ils étaient leur a donné ce sentiment. Et moi, je viens d'un système religieux qui me faisait voir Dieu comme un père fouettard prêt à me prendre en défaut, comme quelqu'un qui est devant lequel j'étais sous surveillance en permanence. Et je vous assure que je me suis tellement éloigné de cette vision des choses, ça n'a rien à voir avec la révélation biblique. Parce qu'on peut avoir un sentiment de domination quand on parle de souveraineté, coercitive, oppressante, écrasante, sans considération de personne. Dieu peut évoquer pour certains sa souveraineté une sorte de dictature aveugle, inconditionnelle. Bien, pourquoi le Dieu souverain qui est amour et bienveillance permet-il le mal et la souffrance ? Dieu était-il au contrôle lorsqu'un ange a décidé de s'élever contre Dieu dans son orgueil et a entraîné dans sa chute une partie des anges ? Vous le savez, Satan et ses cohortes d'anges déchus. Pourquoi a-t-il laissé Adam et Ève désobéir et s'enfoncer dans le péché ? On l'a dit, mais je le répète d'une autre manière, la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu peuvent-elles être compatibles ? J'ai déjà soulevé cela. Pourquoi les fléaux et les catastrophes qui se sont abattus sur la terre, Dieu les a-t-il permis ? On sait qu'il y a des épidémies, on parle en ce moment de pandémies, et qui ont touché au début du XXe siècle, la grippe espagnole, je crois, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a tué bien plus de gens que la guerre, des millions et des millions de personnes. Il y a eu, au Moyen-Âge aussi, c'était la peste, je crois, qui a tué en Europe des millions de personnes aussi. Tellement de fléaux qui se sont abattus. Dieu, où était-il ? Pourquoi, si Dieu est souverain, ces choses se produisent-elles ? Oh, il y a certains dans leur théologie, leur croyance, peuvent avoir la vision d'un Dieu passif, qui est là en observateur, ne répondant parfois qu'à la prière de ceux qui veulent bien être en interaction avec lui uniquement. Et ce n'est pas la vision du Dieu éternel que nous présentent les Écritures. Et ce serait plutôt, d'ailleurs, certains ont une vision de Dieu qui est une vision idolâtre, qui est celle d'une idole. Et tout le livre du prophète Ésaïe, tous les prophètes à partir d'Ésaïe, Jérémie, luttent contre l'idolâtrie dans laquelle le peuple avait tendance à tomber. Ailleurs, l'idolâtrie telle qu'elle se présentait à l'époque. Alors on pourrait parler de l'idolâtrie sous une forme peut-être différente aujourd'hui, plus moderne, mais qui est toujours aussi réelle, qui peut toujours aussi nous surprendre, même si elle a des côtés moins évidents. Jérémie 10, chapitre 5 à 7, par exemple, « Ces dieux sont une colonne massive. » Il parle des idolâtres de l'époque qui se sont créés des divinités. Ils ne parlent pas, on les porte, oui, on les porte, parce qu'ils ne peuvent faire un pas. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, de même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. Il est en train de leur dire que les idoles ne font ni mal, ni bien. Il ne faut même pas en avoir peur. Hein. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand, et grand est ton nom, puissant. Qui ne te craindrait, roi des nations ? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Vous lirez aussi un peu plus loin le verset 12 à 16 où il est question de Dieu qui a fait la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse. Dans la création, on voit eh bien, le Dieu créateur, souverain déjà dès le moment de la création. C'est pour ça qu'il l'est par la suite également et il le restera. Jusqu'au bout. Pourquoi les génocides hein ? Pour les plus connus, celui peut-être de la Shoah, les millions de Juifs qui ont été exterminés lors de la Deuxième Guerre mondiale, ou peut-être pour d'autres qui nous parlent davantage, celui du Rwanda aussi. C'était dans les années 90 ou 80 14, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien les années 90, oui. Donc, voilà, des choses comme cela. Et on pourrait citer multiples exemples. Je prends juste comme ça un ou deux exemples que vous connaissez certainement. Alors, continuons à parler donc de la souveraineté. De quoi parle-t-on en employant ce mot ? Alors, une définition, il y en aurait plusieurs, j'en ai choisi une. Certainement, j'en citerai d'autres lors de éventuelles prochaines études. Ce terme désigne le pouvoir libre et illimité de Dieu qui exerce un contrôle absolu sur le monde et sur l'histoire. Je répète, ce terme désigne le pouvoir libre et illimité de Dieu qui exerce un contrôle absolu sur le monde et sur l'histoire. Et on trouve un tas de références bibliques là-dessus. Alors, on ne peut pas passer notre temps à les citer là, dans une réunion publique comme celle-là, mais faites vos propres recherches. Si vous voulez que je vous en cite une ou deux, Par exemple, le psalmiste dit, il faudrait lire un peu plus, mais je cite le verset premier du psaume 50, « Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au couchant, Dieu de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. » Le psaume 66, verset 7, 66, verset 7, « Il domine éternellement par sa puissance, ses yeux surveillent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. » Et puis il y a le chapitre 40 d'Ésaïe, « Consolez, consolez mon peuple, hein, vous le lirez vous-même. » Ce qui m'a frappé dans le livre d'Ésaïe également, au début du livre, et l'expression revient à plusieurs reprises dans ce livre, où Dieu dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » Venez et plaidons. Dieu a envie de plaider, il a envie d'argumenter avec nous, il a ses arguments à faire valoir. C'est ce qu'il a fait avec Job, vous en souvenez ? On en reparlera dans quelques minutes. Hein, alors que Job, eh bien, avançait un tas d'éléments intéressants sur lesquels il y a de quoi réfléchir, bien sûr. Et puis Dieu est intervenu à un certain moment. Et vous savez qu'il n'a pas répondu aux questions que Job était en train de poser. Il lui a simplement montré la création et sa souveraineté au moment de la création et dans la façon dont elle fonctionne. Dont ces créatures fonctionnent. Une autre définition est donnée, que j'ai trouvée. La souveraineté peut être définie comme le pouvoir d'une autodétermination absolue de Dieu. Le pouvoir d'une autodétermination. Dieu n'est pas caractériel, réactif, si vous voulez, dans le sens où il réagirait d'une certaine manière en fonction de ce que nous faisons, ne faisons pas, comme un homme pourrait le faire, même si parfois ce qui nous est rapporté dans la parole de Dieu, eh bien, il y a un peu des anthropomorphismes, si vous voulez, où il est question de Dieu en termes humains, dans ses émotions, ses réactions, etc. Mais on n'a pas le temps de développer davantage, même si certaines réponses là vont vous aider à comprendre exactement comment les choses se passent selon la révélation biblique. Dieu sait exactement ce qu'il fait, ce qu'il veut, qui il est. Dieu sait où il va avec le monde. Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il y a un projet divin. Il sait où va le monde. Il n'est pas dépassé par les événements. Si vous l'avez cru, si vous le croyez, vous vous trompez. Dieu n'est absolument pas dépassé par les événements. Ésaïe 46, 10, je crois qu'on l'a lu tout à l'heure, « Mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. » Tout ce que Dieu veut, il le fait. Il n'est empêché par quoi que ce soit ni par qui que ce soit. D'accord ? Vous vous souvenez de la fin du Notre Père ? Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Notre Dieu règne. Notre Dieu tout-puissant règne. Amen. Je vois encore ce titre dans une grande convention, dans un autre pays à laquelle j'ai assisté il y a bien des années en arrière. Il y avait ces lettres, il y avait des milliers de personnes. Il y avait ces lettres écrites en très gros « Our omnipotent God » Rain, c'était, je crois que c'était ça. Non, our, oui, ça doit être formulé de cette manière. Notre Dieu tout-puissant règne. Amen. L'Épître aux Éphésiens nous dit, ce magnifique chapitre premier, vous en souvenez, en lui, en lui, en lui, en lui, nous avons été bénis. Mais il dit ceci, Dieu opère tout ou toute chose, au verset 11, verset 9 à 11, selon le dessein bienveillant de sa volonté. Amen. Alors maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin et de voir comment Dieu contrôle les choses. Alors j'emploie plus facilement le mot que Dieu, l'expression suivante, Dieu exerce, comment Dieu exerce sa souveraineté. On va rentrer dans des choses plus pratiques, là, plus parlantes peut-être. Ça va vous aider, hein ? On chemine ensemble. Ne vous découragez pas, on va y arriver. Je vous assure. Le mot contrôle peut me poser à certains moments des difficultés, parce que par rapport au contrôle des individus, Dieu n'est pas dans le contrôle des individus. Il contrôle les choses, les événements, un certain nombre de choses, mais nous ne sommes pas des Playmobil. Qui a déjà joué au Playmobil ? Ah, même il y en a des pas jeunes qui ont joué au Playmobil. Voilà, nous ne sommes pas des Playmobil. Dieu n'agit pas de cette manière-là. Et pourtant, il est au contrôle de toutes choses. Mais nous ne sommes pas entre ses mains des marionnettes, d'accord ? Il est en interaction, il agit sur les éléments, sur l'environnement, il nous fait comprendre les choses, il nous parle d'une manière ou d'une autre, il peut communiquer avec nous. C'est ça la différence. Playmobil, c'est inerte, c'est une matière inerte, sans vie, sans rien. Alors Dieu exerce sa souveraineté d'abord, nous devons le comprendre, selon sa personnalité, pardon, ou ses attributs, sa nature, selon ce qu'il est, son identité. Ses décisions sont alignées sur un ensemble de qualités qui sont les siennes. Il est contraint par sa propre nature. Et oui, comme nous sommes contraints par la nôtre. Dieu, quand Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour, c'est que, eh bien, Dieu fait tout en étant amour et en restant amour. Amen. Ses qualités, c'est la bienveillance, par exemple. C'est l'amour inconditionnel, pour le préciser. Mais c'est aussi le sens de la justice. C'est la sagesse. Dieu est sage, une sagesse inimaginable pour nous. C'est-à-dire une intelligence absolument qu'on ne peut pas concevoir. C'est pour ça que même expliquer la souveraineté de Dieu, ça aura des limites. La parole de Dieu ne nous permet pas de absolument tout comprendre avec notre raison, mais de déterminer des choses suffisantes que nous pouvons savoir, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, de manière à pouvoir vivre et avancer. Amen. Et des choses qui nous manquent nous seront révélées en temps voulu, lorsque nous serons avec lui. Amen. Vous le croyez ? Mais enfin, on sait ce qu'on a besoin de savoir quand même. Donc, la trajectoire divine que nous découvrons dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, est pertinente. On va préciser les choses. La souveraineté de Dieu, donc, on a dit, est intelligente, elle est aimante, elle est juste, parce que Dieu est tout cela. Et nous pouvons lui faire confiance. On a dit que Dieu est contraint, il a des contraintes. Il est contraint par sa propre nature. Il est fidèle à ses promesses, c'est-à-dire elles sont en lien avec son projet. Il est fidèle à son identité. Il ne nous trompe pas, même si nous n'arrivons pas à tout comprendre. Et pour en revenir à Job, que j'ai cité tout à l'heure, lorsque Dieu a commencé, vous vous souvenez, à lui expliquer, à lui montrer. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aimerais que, à la fin de ma méditation, on chante ensemble, si c'est possible, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, qui exprime la souveraineté de Dieu dans la nature, dans la création. Vous voulez bien ? Pas encore, hein, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait avec Job ? Job était dans une impasse sur le plan de la compréhension de ce qui lui arrivait. D'ailleurs, Dieu ne lui a jamais expliqué pourquoi il traversait. Vous l'avez remarqué ? Non, il n'y a pas donné de réponse. Il lui a simplement dit, « Job, n'essaie pas de me comprendre, mais apprends à me connaître. » Amen. Il est plus important de connaître Dieu, de chercher à le connaître, que de chercher à tout comprendre. Difficile hein, pour certains individus, personnes, c'est sûr. C'est pourtant ce que Job a expérimenté. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Quel œil ? Son œil physique ? Non, l'œil de son cœur. Le voile a été ôté sur certaines dimensions de la personne divine. Et il a été profondément apaisé, réconcilié, profondément béni. et il a pu continuer son chemin et repartir là où Dieu voulait le mener. Renonce à me comprendre, mais apprends à me connaître. Amen. Dieu manifeste ses terribles jugements, c'est vrai. Sa souveraineté majestueuse s'exerce avec grâce et bienveillance, même dans les jugements qui viennent frapper les hommes. Et oui, on peut quand même lire ce que Dieu... Attendez, je n'ai pas fait une erreur, je vérifie. Chapitre 44... Est-ce que c'est bien le livre de Job que j'ai marqué? Hop là. Non, il n'y a pas chapitre 44, je me trompe de... Non, c'est dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu s'adresse à Jacob, Israël, au chapitre 44, versets 21 et 22 du livre de la Genèse. Je crois que c'était le livre de Job, mais il n'y a pas 44 chapitres, donc ce n'est pas ça. Versets 21 et 22, chapitre 44 du livre de Job. De Genèse. J'insiste, hein, j'y tiens. Tu as dit à tes serviteurs, faites-les descendre vers moi et que je les voie de mes propres yeux. 21, 22. Non, c'est pas cela. Alors, ça doit être... Non. Il y a une erreur quelque part dans mes références. Mais c'est pas grave. Bien, Dieu, donc, sa souveraineté s'exerce d'une manière majestueuse, avec grâce et bienveillance. Et ce sur quoi Ésaïe insiste, comme les auteurs également des livres des psaumes, c'est que Dieu est incomparable. Il est le tout autre. Il est radicalement différent. Et incomparable, c'est-à-dire au sens littéral, on ne peut le comparer. Dieu est unique en son genre. Il est créateur, mais distinct de sa création. Ésaïe 45, verset 5, « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, et à part moi, il n'y a point de Dieu. » Même, on peut relire aussi les versets 7 et 8, du chapitre 45, relire, mais je crois qu'on ne les a pas lus. « Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je réalise la paix, je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux distillent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre pour que, tout ensemble, le salut y fructifie et que la justice germe. Moi, l'Éternel, j'en suis le Créateur. » Eh oui, ça exprime que Dieu tient tout entre ses mains. Et malgré tout ce que, bien sûr, je vais un peu plus loin, malgré tout ce que Dieu nous a révélé, la formidable alliance dont il a donné les termes dans ce livre unique qu'est la Bible, malgré toute la richesse, l'étendue, la portée du contenu des Écritures saintes, Dieu échappe, vous savez, à toute boîte, tout système dans lequel nous on voudrait l'enfermer, tout cadre dans lequel nous essaierions de le mettre. Il y a des choses qui resteront incompréhensibles et qui nous dépassent. Tout au long, je vous l'ai dit tout à l'heure, du livre d'Ésaïe, l'idolâtrie est combattue, les idoles sont dénoncées, elles sont incapables de faire quelque chose d'utile, de faire du bien ou du mal, elles sont aveugles, sourdes, impotentes. Et il y a un contraste saisissant avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'y a rien de comparable à Dieu. Donc, je vous encourage à chercher à connaître Dieu vraiment. Ce que nous pouvons faire dans notre vie de mieux, c'est non seulement, nous pensons bien sûr connaître Dieu par le fait qu'il s'est révélé à nous dès le départ, lorsque nous nous sommes tournés vers lui, lorsque nous nous sommes convertis, mais... Nous sommes appelés à continuer à chercher Dieu au travers des circonstances de la vie, au travers des épreuves de la vie. Lorsque nous traversons une tempête, une crise, la seule chose essentielle à faire, importante, c'est de chercher Dieu. Parce que Dieu, là, va nous y révéler des choses que nous ne pourrions pas apprendre autrement. Et Dieu se sert des tempêtes et des crises dans la vie pour nous apprendre des choses que nous ne pourrons pas apprendre d'une autre manière. D'accord ? Reçu, 5 sur 5 ? Vous avez le droit de lever la main, hein, même si 5 sur 5. Vous n'apprendrez pas autrement. Ça, c'est sûr. Et bien, les noms de Dieu, vous les connaissez aussi. Certains noms de Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu, l'Adonai, Kurios en grec, c'est le Seigneur de l'univers. Seigneur, ça veut dire ce mot-là, Adonai en particulier, eh bien, il y a un sens absolu du Seigneur de toute chose, de la vie, de la mort, de ce qui est présent ici, de ce qui est ailleurs, que nous ne voyons pas. Dieu est souverain et maître, il est le Seigneur, l'Éternel règne. Ésaïe nous fait vivre l'étendue, la portée de son règne, depuis la création jusqu'à la fin des temps, quand on lit tout le livre du prophète Ésaïe. Le psalmiste dit, au psaume 135, verset 5, « En effet, j'ai reconnu que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. » Alors faites-lui confiance. Vous n'avez pas le choix. Faites-lui confiance. Alors Dieu, on a dit, exerce sa souveraineté selon sa nature, selon ce qu'il est, selon son identité, sa personne. Mais aussi, deuxièmement, selon son projet, qui dépend de sa nature. Amen. L'être de Dieu est essentiel, c'est pour ça qu'il y a tous ces noms de Dieu. Et l'être et le faire de Dieu découle de son être, de ce qu'il est. D'accord ? Toute l'histoire du salut repose sur l'accomplissement de la prophétie de Genèse 3. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu n'est pas pris au dépourvu, hein, vous savez, par ce qui est en train de se produire. Vous allez me dire, il aurait pu éviter que la chose se passe de cette manière. La Bible nous montre que Dieu accomplit un plan souverain de salut pour l'humanité. Et il va le mener à son terme. Et que la fin est une fin heureuse. Que nous acheminons vers quelque chose qui va permettre aux hommes de découvrir la grandeur, la plénitude qu'il y a en Dieu, et une perspective de salut dans le sens absolu du terme. Les hommes sont des sauveteurs souvent, ils vont sauver à droite, à gauche, ils se présentent comme des sauveteurs, mais ils ne sont jamais, je sais qu'on emploie le terme bien sûr, mais celui qui est sauveur dans le sens absolu, seul Dieu l'est. Amen. Nous ne sommes, nous, que des sauveteurs, d'une manière ou d'une autre, lorsque nous portons secours et aide aux uns ou aux autres. Mais Dieu reste le sauveur. Amen. C'est le sens de l'action de Dieu. Il y a un plan souverain de salut. Donc, la souveraineté de Dieu s'exerce, non pas... Il y a des gens qui pensent que la souveraineté de Dieu s'exerce de manière à ce qu'un jour il puisse éliminer une grande partie de l'humanité et que, au temps de la fin, je ne sais pas, de sa colère maximum, il détruise pour... Non, 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 non. C'est pas exact, même si des choses terribles peuvent se produire, comme nous en avons quelques indications en ce moment... La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, on parle là du projet de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. L'Épître à Timothée nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Ça ne veut pas dire que ça va s'opérer dans l'absolu et que tous les hommes connaîtront la voie du salut. Malheureusement. Dieu est celui qui aime le mieux et qui aime le plus. Il y a un absolu dans l'amour de Dieu. C'est par là d'abord que s'exprime toute sa souveraineté, dans son amour absolu. Et on a lu tout à l'heure, j'ai cité tout à l'heure Éphésiens 1:9 qui nous parle du dessein bienveillant de Dieu. J'utilise la version à la colombe comme version principale, il m'arrive de lire aussi bien sûr dans d'autres, mais parce que le mot prend tout son relief dans cette version, le mot bienveillance. D'accord ? C'est un mot très fort en hébreu, dont on a un sens limité en français. Une attitude bienveillante, c'est beaucoup plus fort que le mot français même si il exprime déjà bien la pensée. Dieu exerce sa souveraineté avec une intention bienveillante, une intention de salut, amen, de ramener un maximum de gens à la connaissance de ses voies, de sa personne, bien sûr. Vous vous souvenez du discours de Paul à Lystre, au chapitre 14, il y avait un homme qui avait été guéri, il était boiteux de naissance, si je ne me trompe pas, il a été guéri instantanément, au chapitre 14 du livre des Actes. Et ensuite, les gens vont venir, la foule va venir vers eux, Paul et ses compagnons, pour faire d'eux une divinité, parce qu'ils sont tellement frappés par le miracle qu'ils veulent les porter au pinacle. Et Paul se défend, non, arrêtez de faire des gestes inconsidérés. Donc, arrêtez-vous et non, vous vous trompez, nous ne sommes que des hommes de la même nature que vous. Mais il dit ceci, il est important que vous vous convertissiez au Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Il les ramène à la réalité du seul Dieu, parce que c'était des idolâtres bien sûr, qui adorait toutes sortes de divinités. Dieu a créé, en établissant des lois de toutes sortes, physiques, chimiques, cosmiques, naturelles, des principes, si vous voulez. Oui, il a créé de cette manière-là. Et peut-être même des lois spirituelles. Et toutes ces lois permettent de régir la destinée des hommes et des nations, selon le passage du livre des Actes, d'ailleurs, on n'a pas tout lu, mais il faut qu'on lise tout le passage 15 à 17 du livre des Actes, selon ce que Paul rappelle dans ce passage. Et il y a des gens qui, dans leur fanatisme religieux, peuvent faire des choses inconsidérées. Il existe des sectes extrémistes, par exemple aux États-Unis, où j'en ai déjà vu des images, des reportages, où des gens, parce qu'ils veulent être tellement littéral avec la parole de Dieu, qu'à partir du moment où Dieu a dit « vous saisirez des serpents, ils ne vous feront aucun mal », eh bien s'amusent avec des serpents venimeux à essayer de se faire piquer. Certains sont morts, d'ailleurs. Et ils organisent des réunions autour de cela. Il y a quelques décennies en arrière, il y a une chrétienne coréenne qui puisque Jésus avait marché sur les eaux, pensait également, elle, arriver après avoir invoqué Dieu, prié, jeûné, peut-être fait un certain nombre de choses, pouvoir faire la même chose. Et elle s'est rendue en montagne auprès d'un torrent, pour que ce soit spectaculaire, très impétueux et particulièrement fort et puissant. Et bien sûr, ce qui devait arriver est arrivé, elle a été emportée par les eaux et elle a péri noyée. Donc, il y a des lois, je veux dire, naturelles, qui font que, eh bien, quand on les transgresse, à moins qu'il y ait une intervention de Dieu et qui ne dépende plus de nous, eh bien, elles vont avoir des conséquences. Donc, Dieu contrôle tout également. Je vais aller un peu plus loin, selon sa providence. Et l'histoire de Cyrus, que nous avons commencé à lire un petit peu dans les chapitres 44-45 d'Ésaïe, au chapitre verset 1er, « Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui et pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux battants, que les portes ne soient plus fermées. » Il s'est servi d'un potentat de l'époque, Cyrus, qui était un Perse. Et je vous l'ai dit au début, c'est lui qui a renversé Nabonide Et d'ailleurs, il l'a fait sans combattre. Il est entré à Babylone et la population l'a accueilli. Il n'y a pas eu en fait de guerre, de combat. Il a pu rentrer parce que, eh bien, Nebuchadnezzar et ceux qui étaient là à ce moment-là, eh bien, se sont rendus compte que, eh bien, il était appelé à prendre le pouvoir tout simplement, et ils se sont résignés. Et il est appelé ce Cyrus, il est appelé son Messie. Il est le roi de Perse. Est-ce que pour autant il est Messie au même titre que Jésus est le Messie ? Non, non. C'est un instrument entre ses mains. Ce qualificatif lui est donné et pourtant ce n'est pas un roi qui s'est prosterné devant Dieu. Il avait l'habitude de respecter les croyances des peuples qu'il soumettait et les divinités également. Il ne l'a pas fait simplement pour Israël. Il l'a fait pour d'autres nations aussi. Et c'est lui donc qui va vaincre l'Empire babylonien et libérer Israël de la captivité de Nebuchadnezzar, qui était le dictateur babylonien. Cyrus n'était pas un roi sanguinaire et inhumain comme Nebuchadnezzar l'avait été. Il avait une attitude assez bienveillante envers les populations et leurs croyances. Et Dieu s'est servi de cet homme pour accomplir ses desseins envers son peuple. Et Dieu a fait cela maintes fois dans l'histoire. Je pense qu'il y a des choses qu'on sait, que d'autres on apprendra un peu plus tard. Hein. Dans l'histoire contemporaine, on peut voir que dans sa souveraineté, Dieu a permis le retour des Juifs sur leur terre après la terrible épreuve de la Shoah lors de la Deuxième Guerre mondiale. Eh oui, eh oui. La souveraineté de Dieu ne contraint pas, ne pousse pas au mal, mais elle ne fait que relâcher le mal existant qui était retenu par lui et qui est à l'œuvre dans ce monde, au travers du péché et de l'ennemi. Comme il a permis à Satan de toucher la vie de Job, mais il lui a donné des limites. Je crois personnellement que Dieu, dans sa souveraineté, empêche le pire d'arriver. Si Dieu relâchait le mal dans toute son expression, je pense que nous serions conduits plus rapidement que nous le pensons à une autodestruction. Il y a des signes, on le voit dans la nature, avec l'écologie, avec les systèmes que nous avons créés et qui abîment la création de Dieu. Hein ? Bien sûr. Lorsque Dieu retire sa souveraineté, regardez ce qui se passe. Romains chapitre 1, versets 24 à 26. Je vous le relis. Il est question d'idolâtrie d'abord, hein, d'ailleurs, juste avant. Je vais lire un peu plus haut alors. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature et de même des hommes abandonnant les relations naturelles, etc. Vous connaissez ce passage. Dieu les a livrés. D'accord ? Dieu s'est servi de Nebuchadnezzar pour juger son peuple Israël. Il s'est servi de Nebuchadnezzar. Il a permis que Nebuchadnezzar envahisse le Moyen-Orient. Plusieurs pays d'ailleurs, plusieurs régions, contrées, dont la terre d'Israël. Et il a emmené bien sûr à Babylone. parce que c'était sa coutume de le faire partout, les pays dont il était le conquérant, il prenait tout ce qu'il y avait de meilleur, il pillait les temples, il pillait les richesses, il choisissait les meilleurs éléments, les plus prometteurs, Daniel et ses compagnons, qui sont partis, le livre de Daniel que vous connaissez, et qui sont partis donc à Babylone, à la cour de Nebuchadnezzar. Donc, Dieu s'est servi de Nebuchadnezzar pour juger son peuple, et pourtant, plus tard, il va dire à Nebuchadnezzar, « Je te jugerai pour ta méchanceté. » C'est un problème, ça, quand même. Dieu se sert de lui, mais ce n'est pas pour cela qu'il n'est pas responsable de ce qu'il est, de ses actes, d'accord ? La souveraineté de Dieu est compatible avec la responsabilité humaine. Amen. Voilà. C'est un peu de l'étude biblique qu'on fait ce matin, hein, excusez-moi. Ce n'est pas une prédication. Bon, si une autre fois, on prêchera un message plein de fougue d'inspiration. Mais là, on réfléchit ensemble, parce que ça, c'est en lien avec ce que nous sommes en train de vivre et de traverser. Dieu contrôle toute chose selon son plan de salut. D'accord ? Alors là, c'est le quatrième point. J'avais dit qu'il y en avait trois, mais on a dit sa providence. Oui, son plan de salut maintenant. Je ne vais pas le développer beaucoup parce que c'est bien connu. Hein. Pas besoin de grandement développer. Donc, Dieu exerce sa souveraineté selon un plan, un axe rédempteur. Amen. Selon un axe rédempteur. Éphésiens 1, 11 nous dit « Et en lui nous avons été mis, mais je l'ai déjà cité, à part prédestiné selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. » Amen. Dans le passage que nous avons lu en introduction, chapitre 46, versets 9 à 13, tout à l'heure, remarquez qu'il y a des mots, je vous le faisais remarquer en le lisant d'ailleurs, je vous ai dit, faites attention, « J'annonce, dit Dieu, j'annonce dès le commencement. » Il y a des choses que Dieu a déterminées d'avance. J'annonce dès le commencement, parce qu'il connaît la fin de l'histoire, il connaît le parcours également. Alors bien sûr, Dieu n'est pas, la cause originale de tout ce qui existe dans ce monde, du moins, et la, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, et la cause primordiale de toute chose, la cause première, c'est le mot que je cherchais, et la cause première de toute chose, par le fait qu'il a créé, amène toute chose, selon un plan, selon un projet également. Mais il n'est pas forcément la cause intermédiaire de tout ce qui arrive. Nous avons notre rôle à jouer. L'ennemi joue son rôle. D'accord ? Aussi. Mais il sera la cause finale. C'est lui qui mettra un terme, qui apportera toute chose à son aboutissement. Donc Dieu annonce, Dieu décrète, Dieu réalise et exécute ce qu'il avait annoncé. N'est-ce pas ? Oui. Versets 10 à 13, j'ai noté, du chapitre 46. Oui, on l'a lu, ce n'est pas la peine de le relire. Hein. Mon projet tiendra bon, si on peut le relire, peut-être. Je suis Dieu, c'est le texte de départ, donc c'est bien de le relire à la fin. Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon. J'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau, de proie d'une terre lointaine, l'homme qui accomplira mes projets. Il parle de Cyrus. Ce que j'ai dit, je le fais arriver, ce que j'ai conçu, je l'exécute. Amen. Il y a tant de prophéties qui se sont accomplies et d'autres qui ne manqueront pas de s'accomplir. Vous pouvez faire confiance à Dieu pour que les choses se passent comme il les a annoncées. Alors, comment vivre les difficultés présentes dans notre vie avec un Dieu souverain ? Jésus, vous savez, lorsqu'il est venu sur terre, a embrassé notre condition humaine. Jusqu'au bout, jusqu'à Gethsémané, hein, où dans une angoisse extrême, une anxiété extrême. Il était dans une telle tension qu'il nous est dit qu'il a des grumeaux de sang commencé à perler sur son front. Et il a dû s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Mais avant de le faire, il lui a dit: « Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. » Hein ? Il est en train de vivre cette tension avec les souffrances qu'il va traverser, qu'il est en train de traverser. Et le plan de Dieu, la souveraineté de Dieu, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a fait confiance à la souveraineté de son Père. Amen. Ça, c'est un exemple frappant aussi. Et Dieu n'abandonne pas le monde au mal. Dieu nous conduit, même au travers des événements tragiques dans notre vie, au travers de nos échecs. Parce qu'il règne, je vais prier. Parce qu'il règne, je vais agir. Et parce que je vais œuvrer, je vais être confiant, je vais être positif, parce qu'il est souverain. Et Dieu est au contrôle, Dieu règne. Amen. Alors prenez confiance pour vous-même, pour votre vie. Je sais que là c'était un terme assez général, peut-être il faudrait prolonger cette réflexion plus loin dans certains domaines, mais déjà vous avez des éléments de réflexion qui vous permettent de voir, de comprendre que Dieu est souverain, et il ne l'est pas simplement d'une manière générale. Il veut l'être dans votre vie. Il veut que votre foi grandisse d'une manière très particulière et vous permettre de vivre les choses que vous avez à traverser avec cette paix, cette confiance, cette assurance. Amen.